Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici, chaque lundi, des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour, à ton tour, oser la reconversion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Estelle. Estelle est créatrice de la marque de patron Apolline Patterns et blogueuse couture. Vous la connaissez sans doute pour son blog sur la couture, Someplace Called Home, ou sur Instagram, @estelle-spch. Un sujet qui me parle, vous vous en doutez. Si vous voulez saluer Estelle ou en savoir plus sur ses activités, vous pouvez la retrouver sur son blog ou via Instagram pour lui faire un petit coucou. Je vous mettrai en tout cas tous ses contacts dans les notes de l'épisode. Après avoir étudié à Sciences Po, Estelle est d'abord devenue journaliste cinéma et a alors fait ses premiers festivals de Cannes. Mais les paillettes ont rapidement viré au cauchemar car l'entreprise n'a plus de quoi la payer. Après un burn-out, elle crée son blog couture pour sortir la tête de l'eau. Vous allez voir, Estelle a un courage hors du commun et est une créatrice pleine de talent. Elle en a d'ailleurs fait son métier car Estelle a démissionné il y a 6 mois de son CDI en communication pour s'en consacrer à son entreprise de patron de couture, Apolline Patterns. Alors avec Estelle, on a bien sûr évoqué son parcours, les étapes de la création d'une entreprise de mode, la difficulté de créer une entreprise seule, comment se relever après un burn-out, de ses astuces pour vivre de sa passion en vendant des produits entre 10 et 20 euros, et comment obtenir ses premiers clients dans une niche. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Estelle. Bonjour Estelle, donc je suis ravie de te recevoir sur le podcast Oser la reconversion, bienvenue.
Bonjour et merci.
Donc, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais actuellement comme métier ?
Alors, actuellement, je suis chef d'entreprise, on va dire ça. J'ai créé mon entreprise de patron de couture. Donc, je vends des patrons de couture à destination, principalement des particuliers qui souhaitent coudre des vêtements pour la vie de tous les jours.
Incroyable. Et donc, ça s'appelle comment, ta marque ?
Ma marque, c'est Apolline Patterns.
Top. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton premier métier, qu'on revienne un peu sur ton parcours ensemble ?
Yes, bien sûr. Alors, mon premier métier, c'était pas du tout ce que je fais actuellement. J'étais journaliste dans le cinéma. Mon parcours, c'était plutôt classique. J'ai fait une hippocane, donc une prépa lettres, et ensuite Sciences Po Bordeaux, donc un master journalisme. C'est pour ça que naturellement, après avoir fait plusieurs stages, j'ai commencé à faire journaliste dans une rédaction de cinéma.
Et alors, journaliste, c'était un rêve d'enfant ? C'était plutôt tes parents ? Comment ça t'est venu
C'est assez marrant quand on y pense, parce que quand j'avais peut-être 12-13 ans, je me disais que j'allais être journaliste de mode, par exemple, à l'époque, c'était Vogue, après, bon, je pense que j'aurais pas fait ce choix, mais j'avais un peu cette idée. Puis je regardais beaucoup de séries où les personnages féminins rêvaient d'être journalistes dans des grandes rédactions de mode, donc c'était vraiment c'était un petit rêve, un rêve d'enfant. Et je pense que pour faire ce type de métier, il faut vraiment être aussi passionné, parce que c'est pas un métier facile aujourd'hui, en tout cas.
Ça ressemble un peu à ce que tu fais en fait sur Instagram et avec ton blog journaliste mode.
C'était un peu l'idée.
On va pas trop dévoiler trop vite peut-être, mais le petit teasing. Après, donc, tu as réussi à faire ton dream job de journaliste.
Ouais, c'était pas facile. Hein. Ça a pris pas mal de temps. Je pense qu'un an après la fin de mes études, donc après la fin de la cinquième année, j'ai fait un an de stage, donc 2 fois 6 mois. 6 mois dans une première rédaction régionale qui était TV7 à Bordeaux. Et ensuite, j'ai fait 4-5 mois à Paris, à la chaîne parlementaire, qui était aussi un peu, toujours journaliste vidéo. Et du coup, qui était dans une agence de production de cinéma. Donc, on faisait une émission hebdomadaire d'environ 6 ou 7 minutes exclusivement consacrées au cinéma. Donc, c'était un job, vraiment, pour le coup, c'était super. J'en ai des bons souvenirs parce que c'est sûr qu'on passe donc nos journées soit en projection pour découvrir les films, soit en rédaction pour écrire les sujets en fait dont on va parler. Et puis, il y avait tout le montage après de l'émission en elle-même qui était assez intéressant. C'était assez encore, assez polyvalent comme boulot, et c'était pas mal.
Donc là, ça y est, tu as accompli tout ce que tu voulais. C'est ton rêve d'enfant qui se réalise. Tu te sens comment à ce moment-là?
Ah ouais, c'était très impliqué, très très, très impliqué dans mon boulot, mais c'est vrai que ça mettait des paillettes dans les yeux et je pense aussi en termes de reconnaissance, parce que bah, on explique, ah ben bah, tu fais journaliste au cinéma, mais ça veut dire quoi? Et donc là, on explique qu'on a fait des interviews avec plein de personnes que les gens voient qu'à travers leur écran. Ce qui était marrant, c'est quand on a fait l'interview du personnage de Ron dans Harry Potter. Donc pour la génération Harry Potter que nous, c'est vrai que tous les copains sont là, mais c'est génial ton boulot. Donc oui, à ce moment-là, même quand j'ai fait mon premier festival de Cannes, c'était quand même l'institution,
Wow.
c'est-à-dire qu'on va là-bas et du coup, enfin, il y avait un jury de fous en plus cette année. Il y avait Xavier Dolan qui est genre mon idole en termes de
Le mien aussi,
réalisateur.
oui.
Il y avait l'acteur américain que j'adore aussi, qui était Jake Gyllenhaal, ça se dit comme ça en norvégien. Et du coup, c'est vrai qu'on se retrouve là et on se dit, bah ouais, c'est quand même.
Ouais, est-ce que socialement, c'est hyper reconnu et puis
Ouais.
c'est des rêves d'enfants. On voit Cannes à la télé depuis petit, donc puis tes parents devaient être super fiers.
Ouais, très content. Bah, ils étaient surtout contents que je fasse quelque chose que j'aime. Parce que ma maman, elle n'a pas forcément eu cette chance de faire un truc, enfin, de faire un boulot, en tout cas, pour lequel elle a fait des études ou des choses comme ça. C'était pas comme ça à l'époque. Donc, ils étaient contents, que je fasse un boulot qui me plaise. Et c'est sûr que, ouais.
Et donc là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'imagine qu'il y a un mai.
Il y a le mai, donc ça c'était, on va dire, les 6 premiers mois, où donc c'était super cool. Il y avait un peu l'effervescence de tout ça. Et ensuite, ben, la société pour laquelle je travaillais a eu des gros soucis de financiers, de trésorerie, ce qui faisait qu'on avait des gros retards de salaire, ce qui est compliqué quand on vit à Paris, de ne pas pouvoir payer son loyer. Et c'est là où c'est un peu. Ben, du coup, c'était un peu compliqué cette période parce que du coup, on est toujours quand même. Enfin, moi, je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais je m'implique beaucoup dans ce que je fais. Et du coup, là, bah, je trouvais qu'il était compliqué de continuer à s'impliquer, mais en même temps, je n'arrivais pas à ne pas m'impliquer tout en, du coup, n'ayant pas de revenus à cette époque. Donc, c'était très compliqué. Et finalement. Le gérant de la société a décidé de procéder à des licenciements économiques, donc parce qu'il ne pouvait juste bah, plus payer quoi. Et c'est là où du coup bah, je me suis retrouvée un peu pas un peu complètement au chômage, mais c'était bon, ça s'est un peu cassé la figure. Je me suis retrouvée en chômage, mais la personne. Le gérant n'était pas très honnête. Du coup, je n'ai touché mon chômage en fait que quand j'ai retrouvé un emploi, donc 3 mois après. Donc un peu compliqué la fin de contrat, on va dire. Et je pense que c'est peut-être ce qui m'a vraiment, ça m'a un peu, je sais pas comment l'exprimer, mais c'est un peu ce moment-là où on fait un rejet de tout en fait. Où je me suis dit non, journaliste, si c'est pour que ça se passe comme ça, avec plus jamais quoi.
C'était le salariat en général, le métier de journalisme, c'est quoi que tu ressens à ce moment-là?
Disons que pendant ce moment, donc dès que je me suis fait licencier, j'ai commencé à rechercher du boulot comme journaliste, où je me suis dit, bon, je vais trouver. Le souci, c'est que dans le cinéma, il y a environ 30 journalistes hein, en France, enfin, à Paris et Île-de-France, donc autant dire que les places sont très très chères. Et même trouver d'autres boulots, comme par exemple BFM TV, qui recrute plus facilement des JRI, puisqu'ils sont sur des. Comment dire? JRI, c'est journaliste reporter d'image, mais ils ont
D'accord.
des. Enfin, ils sont sur du 24-24, donc ils ont besoin de main-d'œuvre. Donc, ça, c'était les boulots à l'époque les plus accessibles, mais en même temps, c'était très compliqué et ils recrutaient que, effectivement, des pigistes. Donc, sans contrat, c'était quand on t'appelle. Donc, ouais, à ce moment-là, je me dis, j'ai pas envie de repartir dans un boulot pas safe financièrement.
D'accord.
C'était vraiment. Ma hantise parce que vraiment j'ai passé 4 mois à me demander. Enfin, si j'avais pas eu mes parents qui avaient payé mon loyer, là je sais pas comment j'aurais fait. En plus, bon, j'étais en couple à l'époque, donc enfin même toujours. D'ailleurs, on était en couple, on venait d'emménager ensemble. Du coup, c'est quand on commence à emménager ensemble et qu'on ne peut pas payer sa part de loyer, c'est
Ouais, c'est
compliqué.
pas évident. Et
Non,
puis
c'est pas compliqué.
c'est un peu la désillusion où tu as fait des super études, tu t'es donné au max pour arriver à ton dream job et puis tu as la réalité
Ouais.
qui te rattrape.
C'est ça. Ouais. Et puis, même dans la manière dont sont considérés, en tout cas, les journalistes par, enfin, même par les recruteurs, les nouveaux, enfin, les jeunes journalistes, ils prennent, ils jettent, enfin, c'est. Il n'y a pas du tout la vision de se dire, bon, bah, cette personne, je la fais travailler, elle va se donner, bon, elle mérite un salaire décent ou des choses comme ça. Il n'y avait pas du tout tout ça, en fait. Et c'est pour ça que j'ai un peu rejeté ce milieu, parce que je me suis dit, finalement, après y avoir travaillé 1 an et demi, est-ce que je me vois, moi, travailler comme ça, comme une dingue, donc à faire 10 heures à peu près par jour? Parce que le métier de journaliste cinéma, ça commence pas trop tôt, mais on a souvent des avant-premières le soir, donc c'est aussi du temps travaillé qu'on passe pas à la maison. Et je me suis vraiment dit, est-ce que c'est comme ça que je visualise mon futur?
Et puis aussi, du coup, l'équilibre un peu vie perso, vie pro, par rapport aux amplitudes horaires.
Ouais, ben, c'est sûr que moi, en plus, j'ai un tempérament un peu casanière. J'aime pas trop sortir le soir en semaine, je préfère réserver ça au week-end. Et c'est vrai que faire le pied de grue à la fin d'une avant-première ou au début, même à 20h30, quand les acteurs arrivent, bon, c'est sympa, mais je me voyais pas faire ça 20 ans, quoi.
Ouais. Et donc du coup, après, tu retrouves un travail, qu'est-ce que tu fais du coup?
Et ben, j'ai justement, je classais un peu, c'est horrible de dire ça, mais je classais un peu les annonces que je pouvais rechercher, déjà par le salaire, parce que j'étais vraiment un peu, pas vraiment, ça m'a,
Ouais,
c'est
traumatisé quoi.
traumatisé, ouais, j'étais
Ouais.
traumatisée, c'est ça. Du coup, je me suis dit, quitte à faire, parce que je savais que j'allais plus faire journaliste, j'allais faire quelque chose que j'aimerais forcément moins, je me suis dit, quitte à faire quelque chose que j'aime moins, bon, ben, je vais au moins essayer d'avoir une situation financière correcte. Et du coup, j'ai postulé à une annonce et j'ai commencé. Et c'est là où tout s'est cassé la figure parce que j'étais trop contente de recommencer. Je me dis, super, nouveau souffle. Et en fait, là, ben, c'est là que j'ai fait mon burn-out que j'expliquais pas en fait comme ça dès le début. J'ai mis 6 mois hein, à poser le nom. Hein. Mais j'ai eu assez rapidement en fait, des espèces de maux de tête tout le temps, quoi. Du matin au soir, quoi. Vraiment toute la période où j'étais éveillée, j'étais. Je me suis dit, tiens, je suis malade, j'ai fait des examens, tout ça, rien du tout. Et en fait, je pense que j'avais vraiment été, pour le coup, traumatisée par ce qui s'était passé avec mon ancien boulot, qu'il m'a fallu pas mal de temps après pour réaccepter un peu de reprendre un nouveau travail et que les relations soient normales. Mais bon, après, ça fait
Peut-être le
partie. Ouais.
contre-coup, quoi, en fait, le
Ouais, je
contre-coup
pense.
de. Une fois que c'était bon, tu étais
Ouais, c'est ça.
restabilisé, ça y est, les nerfs lâchent et tu peux.
Ouais, complètement. Et vraiment immédiatement, hein, c'est-à-dire qu'ils m'ont appelé le vendredi pour me dire c'est bon. Et le lundi, j'étais. Et ensuite, ça ne m'a pas quitté pendant 3 mois. Alors, j'ai tenu bon avec les maux de tête les 3 premiers mois pour avoir le préavis. Ce qui était horrible. Hein, c'était vraiment. C'est compliqué. Là, mes parents étaient. Ils se demandaient comment on allait s'en sortir. Mais ensuite. Bah, au bout de 3 mois, quand mon préavis a bien été confirmé, du coup, j'ai été obligée de m'arrêter. J'en pouvais plus, hein, nerveusement. J'avais tout donné pour prouver que oui, j'étais bien là, comme il fallait, on va dire. Et ensuite, bah, j'ai fait 1 mois et demi d'arrêt maladie pour me remettre. Et ensuite, ça allait mieux.
Et comment, enfin, t'expliques ça quoi, du coup, comment t'as fait pour...
J'ai coupé. Je suis partie de Paris et j'ai été chez mes parents pendant 1 mois et demi. Et je pense que. Quand on a des périodes pas faciles, c'est bien de changer d'air, mais vraiment quoi. Je pouvais plus supporter le quotidien. Après, j'ai vu aussi j'ai fait de l'hypnose pour m'aider à reprendre confiance en moi parce que en fait, apparemment c'était ça, j'avais un peu perdu confiance en toutes mes capacités. Et du coup, j'ai vu 3 4 fois une hypnothérapeute justement pour me rebooster et repartir du bon pied et ça a fonctionné.
Et du coup, c'est à ce moment-là que tu lances ton blog,
C'est
c'est
ça.
pour te sortir.
Ouais, complètement. Je pense que le blog, je l'ai. Enfin, toute la partie de préparation, c'est-à-dire la web design, en fait. J'ai commencé à le faire quand j'étais en arrêt maladie, en fait, à Angoulême. Et oui, c'est un peu un projet C'était au début un projet pour me sortir la tête de l'eau. Et je me disais, bon, ok, je fais de la communication, c'est pas ce dont je rêvais, mais j'ai ce blog et puis je vais parler de ce que j'aime dessus. Comme ça me permettait aussi de garder la continuité avec le journalisme en continuant d'écrire, etc. Donc oui,
Donc là,
ça.
tu refais un peu journaliste mode
C'est ça.
sur ton blog.
C'est ça. Bah, au début, c'était. Je me cherchais encore un peu, donc j'avais dit, bon, moi, je parlais de mode, peut-être de cinéma, un peu de lifestyle avec des cosmétiques bio, peut-être des conseils bien-être, puisque j'en avais cherché pas mal pendant ma période un peu down. Là, on est à peu près, je pense, en mars 2010, non, avril 2017. Et effectivement, j'ai ensuite commencé à coudre suite à une remarque que m'avait fait une copine en soirée. C'est-à-dire qu'on était chez des amis et puis elle me montrait en fait qu'elle faisait des bijoux, donc des boucles d'oreilles, tout ça. Et elle me dit, mais toi, tu fais pas une activité manuelle? Je lui dis, bah non, j'ai mon blog, mais c'est vrai que je ne fais pas d'activité manuelle. Je dis, c'est fou, je t'aurais bien vu créer tes vêtements. Et là, je sais pas, il y a eu une boucle qui s'est bouclée dans mon cerveau. Je me suis dit, alors, effectivement, c'est pas bête de dire ça, puisque bah, quand j'étais petite, je passais mes. Enfin, petite, 8, 9 ou 10 ans, et même après, je passais ma vie à jouer, à dessiner la mode. Donc, pour créer mes vêtements,
Ah
je faisais des
oui,
silhouettes. Et
c'était le
ensuite.
truc qu'on tournait là, c'est
Ouais, c'est
ça?
ça.
Oui, j'adorais aussi.
Ouais, et ensuite, j'ai continué, une fois que j'avais épuisé le stock de dessiner, c'est la mode, je continuais à faire moi-même mes propres silhouettes. Alors. En général, c'était des personnages de BD ou de dessins animés que j'aimais bien. Et je les habillais ensuite comme je voulais. Et j'ai toujours aimé la mode. J'ai toujours aimé trouver des beaux vêtements. Et je me suis dit, mais oui, pourquoi j'ai pas pensé à la couture, quoi? Peut-être parce que du coup, j'avais baigné dedans vu que ma grand-mère était couturière et qu'elle me faisait... Enfin, elle faisait des vêtements à ma maman. Et moi, comme j'étais plus petite, elle me faisait surtout mes déguisements. Par exemple, elle me fait un déguisement de Pocahontas, de Mulan, enfin... Et je pense que je baignais tellement dedans que je l'ai pas vu, quoi.
Ouais, t'as peut-être moins eu le manque parce que c'était déjà présent dans ta vie ou tu vois
Ouais,
ce
ou
que je
je
veux
me
dire?
suis ou alors j'ai vraiment pensé que c'était terminé parce que bah, ma grand-mère a fait ça toute sa vie jusqu'à l'arrivée du prêt-à-porter finalement où les commandes ont chuté et elle s'est retrouvée avec bah, du coup plus d'activité. Donc je pense que c'est voilà, pour moi, c'était un autre temps, quoi.
Elle était couturière professionnellement, du coup.
Ouais. Oui, elle avait son entreprise.
C'est incroyable.
Ouais.
C'est fou parce que enfin, moi, je crois beaucoup aux traditions, au destin, aux choses qui se transmettent. On dirait que ça s'est transmis sans que
Sans
c'était
que ça c'est.
là.
Ouais.
Voilà.
C'est bizarre parce que du coup, c'est vrai qu'on n'a jamais fait de couture ensemble. Moi, je l'ai très rarement vu coudre. Et les seules directives qu'on avait, c'est surtout ne mettez pas vos mains sous la machine. Elle l'a débranchée à l'époque quand on venait passer des semaines de vacances ou le mercredi après-midi. Et non, vraiment, on n'a pas. J'ai un peu fait ça dans mon coin. Et puis un jour, je lui ai dit, bah, tu sais, mamie, je me suis mis à la couture. Et elle m'a dit, ah bon? Et finalement, ça nous a un peu plus rapprochés maintenant. C'est-à-dire que maintenant, quand on s'appelle, bah, du coup, on peut passer 20, 25 minutes à discuter de ah, bah, c'est quoi tes nouveaux modèles. Quand je vais les voir, en général, je ramène quelques vêtements pour lui montrer.
Et donc, donc tu apprends la couture par toi-même, et après, comment tu passes au patron? Parce qu'on peut rester toute sa vie à coudre sans forcément faire des patrons. Donc, comment t'es passé de l'un à l'autre
Bah, je pense que c'est ce qui m'intéressait le plus, c'est-à-dire que. La couture, c'était plus le moyen de donner vie à ce que j'avais dans la tête. C'est-à-dire que je ne me suis pas dit, je vais coudre des patrons de créatrices. En fait, j'ai acheté mon premier patron M comme Marie, donc un patron classique. Et en fait, dès le début, j'ai voulu changer des choses. Je voulais rajouter des festons, je voulais ouais, ou rajouter une basque à volant. Enfin, je voyais d'autres trucs. Et en fait, très vite, j'ai commencé à plutôt faire ça, c'est-à-dire à prendre. Je n'ai pas cousu beaucoup de patrons. Je pense que pour commencer, j'en ai cousu trois. Et ensuite, je me suis directement intéressée à comment on construisait son buste de base par rapport à ses mesures et comment ensuite faire des pièces par rapport à ça. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé. Et du coup, sur Instagram, je partageais des créations, comment on pourrait dire, originales, enfin, qui n'étaient pas d'après un patron. Et je pense que c'est peut-être ça aussi qui a plu et qui a commencé à faire naître un peu l'idée que ça pourrait être possible, peut-être, de créer des patrons. Quand je postais des looks, j'avais souvent des commentaires qui me disaient Ah, mais c'est génial, est-ce qu'on pourrait avoir un patron ou des choses comme ça? Et je me suis dit, ah, ben, il y a peut-être quelque chose à faire. Et c'est ce qui s'est confirmé au début. Donc, j'avais vraiment surtout mon blog. Et je pense qu'il y a 2 ans et demi ou peut-être 3, j'ai dû sortir 2 premiers patrons, dont Portofino, et un petit top avec des volants. Et celui-là a marché. Les gens commençaient à acheter et à partager leurs avis sur Instagram. Et c'est là où je me suis dit, ah ben je vais continuer comme ça pour voir. Hein. Et puis on avisera selon si ça prend ou pas.
Donc, dès le début, tu as créé des patrons payants. Tu n'as pas partagé de patrons gratuits.
Non, parce que je pense que j'avais un peu la crainte que si je commençais à faire des patrons gratuits, comment on justifie ensuite
Ouais.
de les faire en payant. En fait, j'ai tout de suite vu ça comme un projet d'entreprise. Et par contre, ce que je donnais gratuitement, c'était tous les conseils pour y arriver, des conseils en couture, les do-it-yourself aussi vidéos qui sont arrivées très
Ouais.
tôt dans mon blog.
Donc tu lances tes premiers patrons, donc il n'y a pas encore, il n'y a pas du tout le nom, ce n'est pas une marque, c'est juste tu tâtonnes et après, donc qu'est-ce qui se passe?
Du coup, il se passe à peu près 1 an entre les 2 premiers patrons que j'avais mis sur mon blog et la création de ma marque, où en fait, j'ai ma communauté Instagram qui s'accroît, mon blog qui est de plus en plus lu. Et du coup, je me dis, bon, mon job, clairement, c'est pas le kiff, quoi. On a des bonnes conditions, j'ai une collègue sympa, mon patron est sympa, j'ai mon salaire tous les mois, génial. Je sais que je vais faire ça que pour 2, 3 ans. J'envisageais pas du tout de rester plus. Et c'est là où je me suis dit, bon, faut commencer dès à présent à institutionnaliser la marque. Ou commencer à créer ce projet en disant, bon, voilà, ça va être une marque, ça s'appelle Apolline Patterns. On va voir si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Mais mon idée, c'est de faire 1 an test. Donc, où j'aurai à la fois mon job en CDI et Apolline Patterns à côté pour voir un peu si ça prend, si ça me permet de vivre au minimum quand je déciderai de quitter mon boulot. Et voilà, donc de mai 2019 à en gros mai 2020, ça s'est fait un petit peu avant, mais c'était le timing. Je me dis, ouais, c'est mon année test. J'essaye de mener les deux en même temps. Et on voit si ça marche. Et c'est là que j'ai créé donc Apolline Patterns le 5 mai 2019
Qui a été une
avec la première.
réussite.
Ouais,
Et donc,
c'était.
qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Donc, entre, bon, voilà, ça y est, ça prend, mes premiers patrons se vendent, je vais créer ma marque. Ça a été quoi tes premières actions? Comment tu as fait pour justement créer une image de marque, faire que ça ait l'air professionnel? Est-ce que tu peux expliquer toute ta croissance pour donner un peu un plan concret pour les auditeurs?
Ouais, alors, comment j'ai fait? J'ai tout d'abord acheté un livre qui s'appelle Do It Your Mark, qui est vraiment un livre assez pratique, très fin et super pédagogique qui permet un peu de créer les différents éléments de sa marque. Et donc, j'ai un peu suivi la progression du livre hein, en prenant ce qui ne m'intéressait pas particulièrement. La première chose, c'était de trouver un nom pour déposer ensuite à l'INPI la marque. Ça m'a pris, je pense, 3 mois. Je pense que j'ai mis 3 mois à trouver un nom parce que tout ce que je trouvais était déjà pris. Je voulais à la base un nom qui puisse, comment dire, exprimer à la fois donc le féminin, puisque je fais des patrons de couture pour femmes, mais aussi toute cette recherche de confiance en soi à travers les vêtements qu'on porte, confiance en soi aussi de pouvoir les confectionner. C'est toujours quelque chose qui est très gratifiant. Donc je voulais que ce nom apporte ça ou transmette ça. Et au début, je voulais appeler ma marque Divine, donc Divine Paris, je trouvais que ça collait bien. c'était déjà fait par une marque de bijoux, je crois. Alors j'ai cherché après, j'ai toujours été sensible aux prénoms, à leur signification. Donc j'ai commencé à prendre un livre des prénoms. Alors je feuilletais tous les soirs en rentrant du boulot les différents prénoms et leur signification. Et j'ai trouvé Apolline, que je trouvais déjà très, très chantant, avec de belles sonorités, et qui me faisait penser donc au masculin, à Apollon, donc la recherche de la beauté. Et je me suis dit, bah, je vais me mettre au féminin, Apolline, c'est très joli. Et puis, j'y adjoins Patterns pour qu'on sache que c'est des patrons de couture. Et voilà. Donc, une fois que le nom est créé, je l'ai déposé à l'INPI. Ensuite, je ne me suis pas trop perdue dans l'univers visuel. Je me suis dit que j'avais un peu commencé à le dresser. Donc, on est sur des tons très roses, très doux. Quelque chose d'assez souriant aussi. Je pense sur les photos, j'aimais pas trop faire la tronche ou des choses comme ça, un univers, on va dire, bienveillant. Mais je me suis pas perdue dans, par exemple, l'uniformisation de toutes les polices textes ou des teintes de couleurs précises, parce que c'est vrai que ces livres, ils ont donc l'avantage de tout présenter. Mais c'est vrai qu'on peut passer un an à préparer son projet dans les moindres détails. Moi, je préférais me lancer un peu et puis gérer les détails de police ou de couleurs très uniformes dans un second temps. Donc, la seconde action, ça a été surtout ensuite de créer les patrons, de les faire tester, de faire un site internet. Donc, ça, j'utilise WordPress. Comme je fais des blogs depuis pas mal d'années, du coup, j'ai les compétences pour créer le site, mais on peut faire appel à des gens qui savent très bien, ou alors il y a des formations, je crois, qui doivent bien exister sur le sujet, même si elles sont payantes, c'est toujours un bon
Oui,
investissement.
j'ai prévu justement, tu me fais une bonne transition, que j'ai prévu justement de sortir une formation sur comment créer son e-shop qui va sortir bientôt. Parce que c'est vrai qu'en fait, on pense que c'est compliqué et qu'il faut l'aide d'un webmaster, alors qu'en fait, non, c'est quelque chose qu'on peut faire soi-même si on nous explique un peu, c'est faisable.
Ouais, les interfaces WordPress, franchement, elles sont super pédagogiques. Tout est pré-guidé, donc si on suit bien et on prend assez rapidement l'habitude, et puis une fois qu'on l'a, ça ne changera pas, quoi. Il y a des menus modifications au fil des mises à jour, mais une fois qu'on
Et
maîtrise.
après, pour tout ce qui est packaging, parce que toi, tu as vraiment des
Ah
packagings qui sont
oui,
super beaux,
c'est vrai.
avec des petits dessins, des petites pochettes. Comment tu as fait aussi pour trouver ton imprimeur? Parce que est-ce que tu as dû avoir un nombre de commandes limité? Parce que j'imagine que quand c'est un imprimeur professionnel, il faut investir de l'argent.
Alors, pas tant que ça en fait. C'est vrai que j'avais une idée assez précise des pochettes parce que j'aimais bien le côté craft qui rappelait le côté artisanal. Pour les impressions des patrons, alors on n'est pas du tout comme dans le prêt-à-porter où il y a des minimums qui s'appliquent au niveau des
D'accord.
usines et qui peuvent compliquer les choses. Ce qui a été le plus compliqué, c'était de trouver les pochettes cartonnées. Trouver des pochettes cartonnées parce que. Évidemment, quand on lance une entreprise, on n'a pas encore les fonds. Du coup, pour quelque chose qui puisse quand même ressembler à quelque chose, qui soit pas trop onéreux. J'ai trouvé qu'une. Ça, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps sur les pochettes. Je pense que là aussi, j'ai dû passer 3 mois à trouver les différents composants des pochettes. Et les pochettes, je pense que je n'ai pas encore le truc le plus optimisé, mais c'est des pochettes à plier soi-même, en fait. J'ai trouvé que ça qui se rapprochait vraiment de l'idée de ce que j'avais en tête.
Et tout ce qui est dessin sur les pochettes, c'est toi qui le fais ou t'as... Donc, tu as
Alors,
tout fait toi-même, du coup, dans la création de... Tu as fait appel à...
j'ai fait appel à aucun
Ah.
prestataire. Ce qu'on peut faire, en tout cas au niveau de mes jaquettes, donc le dessin du vêtement, c'est moi qui le fais, puisque forcément c'est un dessin qui sort de mon imagination. Les fonds, il y a plein de bibliothèques maintenant qui. Alors, c'est payant, on paye en général une mensualité qui doit être, je sais pas, ça dépend des plateformes, mais d'environ 15 à 20 euros. Et là, on a accès à plein de documents numériques qu'on peut utiliser à des fins commerciales.
Ah,
Par exemple, moi,
d'accord.
les fonds de mes jaquettes, c'est des illustrations qui ont été proposées par voilà, des gens dont c'est le métier. Ils les mettent en vente, on les achète et on a le droit de les utiliser de manière commerciale.
Ça s'appelle comment du coup ce site d'illustration?
Alors, il y en a,
Oui.
moi je suis abonnée à deux. Il y a Creative Market, qui est donc un site anglais où il y a pas mal de choses, hein. Il y a même des fonds pour les stories, il y a des pages types web, enfin, il y a plein de choses, des pages types newsletter aussi, des éléments d'illustration si on veut des fleurs, si on veut, enfin, vraiment plein de choses. Et le second, c'est Envato, qui est
D'accord.
aussi un site par lequel je passais pour acheter les thèmes WordPress.
Comment se passe ce test? Est-ce que ça dépasse tes attentes?
Alors, ce qui dépasse mes attentes, c'est surtout les lancements de collection. Parce que bah, mes premiers lancements, voilà, on dit chouette, ce dimanche, il y a un nouveau patron. Et puis, on a 15-20 commandes. Déjà, on est trop content parce que les gens achètent. Mais 15-20 commandes avec le prix d'un patron, ce qui nous permet de vivre un mois voilà, sans aide autre. Et la première collection qui est lancée en mai 2019, franchement, je ne l'avais pas vu venir parce que je suis vraiment passée du moment où je n'avais pas institutionnalisé ma marque, donc où j'avais quelques commandes par-ci, par-là, à la première collection Apeline Patterns où les gens étaient enfin, vraiment assez mobilisés. Donc j'ai eu beaucoup de commandes, plus que je pensais. Je me rappelle que j'ai dû refaire faire imprimer des pochettes en urgence parce que j'en avais plus le dimanche soir. Donc premier lancement, super. Après, ça me faisait quand même un bon complément, en tout cas de revenus. Donc heureusement que j'avais encore mon salaire à l'époque parce que ça ne me permettait pas de vivre en tout cas au même niveau de vie que mon salaire de l'époque. Deuxième collection lancée, bah du coup, ce qui est intéressant, c'est que le lancement est encore meilleur qu'en mai. Donc, je me dis, il y a une croissance. C'est de plus en plus de gens qui sont mobilisés autour de la marque. Donc, c'est toujours très encourageant.
Et ça
Et
te rassure, du coup, de plus
ça
en
me
plus.
rassure. Ouais. Où je me dis, bah, donc là, on était en octobre. Je me dis, bah, là, ça commence quand même à se stabiliser. C'est-à-dire que j'avais à peu près les mêmes niveaux de revenus. Au niveau de mes ventes par mois, excepté les mois de lancement qui sont un peu particuliers. Mais ensuite, je pense quand on est chef d'entreprise, on apprend à lisser sur l'année, c'est-à-dire qu'il y a des mois de lancement, il y a des mois plus creux, mais voilà, faut gérer son argent différemment que quand on est en CDI où le même salaire tombe tous les mois. C'est-à-dire qu'il y a des mois où, effectivement, il y a plus de revenus, bah, faut pas tout épuiser parce que ça servira les mois suivants. Donc, il y a un peu ça à garder en tête. Et du coup, là, en octobre, je me dis, bon, ça se stabilise. Peut-être qu'on va un peu précipiter le calendrier. Donc, je pense qu'en octobre 2019, c'est là où je me dis, je suis pas sûre de vouloir encore attendre. Donc, les 8 mois qui me restent avant de quitter mon CDI, comme on avait dit. Et l'autre chose, c'est que du coup, j'avais mon mariage cette année. Et je me suis dit que un CDI, Apolline Patterns et le mariage en même temps, j'étais incapable de sortir une collection automne-hiver. Et donc, que ça allait poser problème parce que j'allais avoir 6 ou 7 mois de creux sans nouveau modèle. Et que quand on est en train de lancer une entreprise, je pense que c'est un peu compliqué d'être absent pendant presque autant de temps.
Mais parce
Et
que
du
tu te
coup,
maries, du
ouais.
coup, juste pour les auditeurs, tu te
Oui.
maries là fin septembre.
Ouais.
Donc, du coup, toute l'année qui vient de s'écouler, c'était l'année de préparation de ton mariage.
C'est ça, ouais. Et c'est vrai qu'une collection, bah, je commence à la préparer depuis mai. Donc, c'est rapidement 5 mois de préparation. Et c'est pour ça que je me disais que j'avais pas le temps matériellement de tout faire. Et comme Apolline se stabilisait, c'est vraiment là où je commence à me dire, bon, va falloir faire le grand saut, quoi.
Mais justement, c'était une question que je voulais te poser parce que je trouve que ça va un peu à contre-courant parce que en général, les gens se disent, bon, je vais d'abord me marier, payer mon mariage et puis ensuite je démissionnerai ou je vais d'abord acheter mon appart et puis ensuite je démissionnerai. Donc, ça paraît dingue de se marier et en même temps démissionner, de faire les deux en même temps.
Ouais, mais parce que moi je l'ai vu autrement. Je me suis dit, une fois qu'on est marié, en général on fait des projets, par exemple pour avoir des enfants. Je me suis dit, je vais jamais quitter un CDI quand je vais faire un enfant. Parce que je pense qu'il se passe des choses dans nos têtes qui font que c'est plus possible, quoi. Et du coup, je me suis dit, non, donc avant de faire tout ça, il faut que ma marque elle soit installée et que je gagne que je gagne de quoi vivre correctement et de pouvoir assurer la transition pour après.
Donc, du coup, tu as démissionné en janvier 2020, donc cette année.
Ouais,
Comment?
j'ai annoncé à mon patron que je partais, enfin que je souhaitais partir en janvier 2020. Je lui ai demandé une rupture conventionnelle et on a fixé une date qui était donc en mars, une date de départ en mars 2020. Et pas facile l'annonce non plus, parce que, alors, si on avait parlé en décembre, j'aurais dit, c'était quand même très réfléchi ce moment où je me suis dit que j'allais passer le cap. Et finalement, il y a eu une partie très impulsive où je me suis dit, je peux plus attendre, parce que j'avais passé un mois de décembre, pardon, exécrable, mais vraiment horrible, où on avait une charge de boulot incroyable. C'était le mois des grèves aussi. Donc, ma collègue
Ouais.
avait beaucoup de mal à venir travailler puisqu'elle habitait très loin. Donc, je me retrouvais avec beaucoup de boulot, beaucoup d'événements. Et franchement, j'en pouvais plus. Je me suis dit, je repars pas. Je partais en vacances. Je me suis dit, je repars pas en janvier pour encore un an ou même 6 mois, quoi.
Donc
Je
juste
ne me
après
voyais
tes
pas.
vacances,
Ouais,
au
c'est
retour de
ça.
tes vacances, tu démissionnes.
Je m'étais dit, je vais attendre 3 jours avant de l'annoncer quand même, histoire que les gens rentrent. Et en fait, j'étais tellement stressée de l'annoncer que j'ai pas attendu. J'y étais le jour même. Je sais que tu rentres de vacances, moi aussi, mais bon voilà, faut que je parle là. Je vais partir. Et ensuite, donc j'ai revécu mon petit trauma dont on parlait tout au début. Parce que j'étais super contente de ma décision. Franchement, c'est la meilleure décision de ma vie, tout ça. Mais je pense que mon corps ou mon cerveau n'ont pas eu le temps peut-être de processer. Enfin, ils avaient besoin de plus de temps pour préparer le changement. Et du coup, là, j'ai eu un peu comme avant, donc au moment de mon burn-out, des maux de tête, tout ça. Je suis retournée voir mon hypnothérapeute. J'ai fait enfin, une coupure aussi. On est parti quelques jours. Se mettre au vert pour changer de pari, changer d'air. Et c'était la bonne chose à faire parce que même si on est content de son choix, bah parfois on peut avoir voilà, d'autres conséquences qui vont passer. C'est pas grave, il faut juste prendre le temps et laisser le temps. C'est des gros bouleversements. Donc il faut être bienveillant. Je sais que mon père, il me dit, mais il disait à ma maman, mais. Je crois qu'elle regrette, c'est pour ça qu'elle a mal à la tête et tout. Je dis, mais non, t'inquiète pas, je suis super en phase avec ma décision. Mais juste, là, c'est hors de contrôle, quoi. C'est pas moi qui contrôle, il faut juste que je passe à travers ça et puis ça ira mieux, quoi. Et effectivement, au bout d'une semaine et demie, ça a été mieux.
Et donc, est-ce que tu peux nous parler du quotidien d'Apolline Paterne, de ton quotidien dans ta nouvelle vie après ta démission? Voilà tes premiers jours.
Alors, ben, premier jour, c'est compliqué, c'était le confinement. Donc, on se retrouve ben, dans le bain, c'est-à-dire que moi, je travaille à la maison maintenant. J'ai un petit atelier dans l'entrée de l'appartement où j'ai petit à petit aménagé l'espace. Donc, au niveau du quotidien, alors quand on est en mars, ben, je commence à travailler sur la collection printemps-été. Donc, c'est surtout là. Bah, trouver des idées sur les modèles, fixer les modèles, puisque forcément je ne peux pas en sortir beaucoup, puisque le temps de mise au point d'un patron est très important. Donc je couds, je fais des toiles, je fais mes patrons sur un logiciel. C'est là en tout cas la majeure partie du temps, en tout cas à ce moment-là. Et ensuite, il y a toute la mise en page, la rédaction des instructions, les illustrations. Il y a toujours les commandes que je continue à expédier. C'est vrai que pendant le confinement, il y en avait beaucoup. Du coup, je pense que les gens ont eu le temps de coudre. Donc, je passais aussi beaucoup de temps à expédier les commandes. Après, il y a toujours des petits soucis de mise au point du site, de service client. Donc, en fait, c'est assez varié le quotidien selon les périodes aussi. Par exemple, là, ça fait un mois que je fais que de la couture pour la nouvelle collection. Mais il y a d'autres. Les 3 prochaines semaines, ça va être que du travail derrière l'ordinateur pour finaliser les instructions de montage, pour préparer le site internet à accueillir la nouvelle collection, préparer les fiches produits. Enfin, il y a plein de choses. En fait,
C'est une question du coup que j'avais parce que donc les patrons que tu vends, donc c'est entre 10 et 16, 17 euros. selon si on prend avec la pochette. Donc déjà, c'est des produits qui sont vraiment pas chers. Et toi, tu produis un travail très enfin, qualitatif parce qu'en plus, tu vas faire pas mal de tutos sur YouTube pour expliquer pour chaque modèle. Et tu produis aussi beaucoup de contenu gratuit avec tes articles de blog où tu proposes des nouvelles versions de tes patrons. Donc, c'était un peu ma question, c'était comment tu fais finalement pour vivre de produits qui sont si peu chers et comment t'arbitres avec tout ce contenu gratuit? Est-ce que tu as envie justement de proposer peut-être des formations payantes?
Pour le secret hein, du business plan quand on veut faire de la création de patron, c'est qu'il faut vendre beaucoup. C'est-à-dire quand on aligne tous les coûts, il y a des patrons qui le prix des patrons se sont fixés, oui, effectivement, à 10 euros à peu près au niveau du PDF et 17 euros au niveau des pochettes. Parce que il faut penser que la personne va aussi acheter son tissu, sa mercerie, et que du coup, mis bout à bout, ils arrivent vite à 60 euros, ce qui est parfois le prix d'une pièce dans le prêt-à-porter, voire parfois c'est moins cher. Donc ça, c'était quelque chose que de toute façon, je ne pouvais pas changer, puisque tous les prix sont à quelques euros près alignés chez toutes les créatrices de patrons. Donc la recette, après, c'était de vendre beaucoup. Et en fait, c'est pour ça que je fais autant d'efforts de communication. C'est justement pour trouver de nouveaux clients, en tout cas en avoir assez pour pouvoir vivre ensuite correctement, enfin, ne pas avoir trop de problèmes en fin de mois. J'ai pensé à faire des formations qui seraient effectivement payantes. Pour le moment, j'ai matériellement pas le temps de sortir des collections et de proposer des formations payantes parce que c'est beaucoup de travail de tournage, de service client, et toute seule, c'est trop compliqué. Donc, moi, je vois plus tous les do-it-yourself en fait comme une carte de visite. C'est-à-dire que c'est peut-être aussi ça qu'il faut faire quand on commence à faire une entreprise, c'est vraiment connaître sa cible, connaître ses clients. Et je sais que j'ai beaucoup de personnes qui cousent et qui n'ont pas forcément confiance en elles et qui n'osent pas en fait se lancer. Dans la réalisation d'une pièce, parce qu'elles se disent de base que ça va être trop compliqué et qu'elles ne vont pas y arriver. Et du coup, moi, avec ces do-it-yourself, la stratégie, c'est un peu de dire, bah, venez, je vous prends par la main et vous allez voir, tout va bien se passer. Et après, vous allez être super contente d'avoir une pièce que vous avez cousue et puis vous trouverez ça génial parce qu'en plus, vous pensiez que vous ne pouviez pas le faire avant. Donc, il faut arbitrer en fait entre ce qui est un. C'est un argument de vente, entre guillemets, et ce qui peut vraiment faire le revenu. En tout cas, pour le moment, en tout cas, pour Apolline Patterns, pour le moment, c'est l'équilibre que j'ai trouvé et qui me permet de vivre comme il faut.
Et quelle vision tu as du coup pour ta marque, pour tes futurs projets, peut-être pour terminer un peu sur cette interview. Voilà, ta vision de la marque, tes futurs projets, comment tu vois l'année qui va arriver?
Pour le moment, je pense qu'il faut que je prenne le temps aussi d'institutionnaliser ma marque comme elle est. Donc, je vais essayer de croître toujours pour trouver de nouveaux clients. Mais je n'ai pas besoin encore de tout changer ou de me renouveler trop. Parce que si je fais ça trop rapidement, donc là, les prochaines collections, je vais surtout sortir des modèles qui me plaisent, qui pourront vraiment accompagner le vestiaire de chaque personne sur le long terme. Donc, c'est des pièces intemporelles en général, mais toujours avec un petit détail raffiné, élégant, qui fait que c'est une pièce quand même personnalisée. Donc là, vraiment, le développement, ça va être de bien faire mes 2-3 prochaines collections. Peut-être de faire quelques capsules entre-temps, si effectivement j'ai assez de temps pour tout développer, hein, parce que voilà, la mise au point d'un patron, c'est plusieurs mois. J'aimerais aussi un peu renforcer la marque Apolline, en fait. Donc, en termes d'univers visuel, là, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Je travaille là avec quelqu'un, avec une graphiste qui va m'aider à personnaliser l'univers d'Apolline Patterns, ce que je faisais moi avant, mais voilà, c'est pas ma spécialité première. Peut-être ensuite vendre des produits un peu dérivés, mais qui seraient aux couleurs d'Apolline pour vraiment avoir une marque de patron, mais une marque de couture aussi. Voilà,
Des
ça
petits
pourrait être.
instruments de couture, par
Ouais, ça pourrait être
exemple.
des instruments de couture, ça pourrait être pourquoi pas des tissus ou des. En série très limitée, hein, je ne vais pas faire mercerie, mais vraiment des choses qui seraient enfin, ciblées univers Apolline Patterns. Là, j'ai sorti un organiseur de couture, donc ce serait peut-être un placeur avec une jolie
Ah
couverture ou des
oui.
choses comme ça.
C'est marrant parce que du coup, oui, quand j'ai vu ton organiseur, je me suis dit, ah, c'est dommage que ça n'existe pas physiquement, le petit agenda pour la
Ouais.
rentrée. Et donc, du coup, la toute dernière question de cette interview, ça sera pour toi, est-ce que c'est une reconversion réussie?
Pour moi, Apolline, oui. Je sais pas si on peut dire reconversion, parce que j'ai pas fait de formation ou j'ai pas fait la reconversion classique. Mais moi, je le vois presque en fait finalement comme une continuité de ce que j'ai déjà fait. C'est-à-dire que je voulais être journaliste au début. Alors, ça a été dans le cinéma. Bon, moi, ce qui me plaisait, c'était la mode. C'est sûr qu'entre journaliste et créatrice de patron, c'est pas tout à fait la même chose. Mais ensuite, j'ai fait de la communication et aujourd'hui, je pense que la moitié de mon boulot, c'est faire de la communication. L'autre moitié, c'est de créer des patrons. Donc, je trouve qu'il y a, c'est un lancement d'entreprise réussi, je dirais. Je ne sais pas si je suis dans la reconversion, mais en tout cas, si c'est la meilleure chose que j'aurais pu faire de vraiment me lancer dans mon projet à moi. C'est sûr que je ne reviendrai pas en arrière maintenant.
D'accord. Merci beaucoup, Estelle. Et je mettrai tous les liens donc de ton blog, de ta marque et puis aussi des sujets un peu dont tu as parlé. Vraiment, merci beaucoup. J'ai été ravie de te recevoir sur Oser la reconversion.
Bah, merci à toi de m'avoir accueilli. C'est toujours chouette et du coup, bah, j'étais contente de participer.
Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram, @oserlareconversion, et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat avec un S, @oserlareconversion.com.